Marie-Pierre, dernière revue de presse de l'année et cette semaine, tous nos journaux parlent de larmes et de colère.
Larmes et colères, Jonathan, des chrétiens de Syrie. On s'est retrouvé à ramasser des bouts de corps. 14 ans de violence, quand est-ce que cela s'arrêtera? À Damas, au lendemain de l'attentat suicide qui, en pleine messe, a frappé l'église grecque orthodoxe Marelias, des chrétiens prient et pleurent leurs morts et leurs blessés et s'interrogent sur leur avenir dans ce pays. Sur le parvis de leur église éventrée, des dizaines de jeunes scouts se serrent dans les bras. Les larmes coulent, les mots manquent. D'habitude, à cette heure-ci, rapporte Paloma Dupont du magazine La Vie, les chants scouts rythment le quartier. Mais ce soir, pas de musique. La répétition a laissé place à une veillée de prières pour les victimes. Un prêtre tente d'apaiser les cœurs. Que Dieu soigne les blessés, nous sommes ensemble, chrétiens et musulmans, une seule famille, n'ayez pas peur, Dieu vous protège. Cependant, la tension reste palpable. Au-delà du drame, n'est-ce pas l'avenir d'une Syrie plurielle et réconciliée qui est en jeu? Est-ce le crépuscule des chrétiens de Syrie? S'interroge Laurence Desjoyeaux dans l'édito du magazine. Dans la Croix de ce mardi, Vincent Grelot, responsable de projet pour l'œuvre d'Orient au Liban et en Syrie, exprime également son inquiétude. Pour les chrétiens, dit-il, il y aura un avant et un après cet attentat, un attentat qui envoie ce message. Vous n'êtes en sécurité nulle part, quittez le pays. Dans le magazine La Vie, l'archimandrite Ibrahim Daoud ne mâche pas ses mots. On nous promet, mais on ne nous protège pas. Nous ne sommes pas des invités. Les chrétiens, nous sommes ici depuis des siècles. Il rappelle les engagements du président Al-Sharaa qui avait promis de protéger les minorités. Puis, un peu plus calme, nous prierons et nous resterons en Syrie jusqu'au bout. Et enfin, dans Famille chrétienne, allez lire l'interview de Mgr Gollnisch. À la veille de son départ, le directeur de l'œuvre d'Orient se confie sur les moments forts de sa mission auprès des chrétiens d'Orient. Il livre aussi une analyse lucide sur ces conflits qui empoisonnent le Moyen-Orient depuis des décennies.
Le pèlerin, lui, nous ramène 30 ans en arrière en Bosnie, Marie-Pierre.
Eh oui, Jonathan. Alors, non pas pour nous replonger dans la tragédie de Srebrenica, mais pour nous rappeler que l'entente ne tombe pas du ciel, qu'elle s'apprend chaque jour entre voisins et anciens frères ennemis. 30 ans après le génocide de Srebrenica, dernier génocide européen reconnu par le tribunal international, le pays s'apprête donc à commémorer la tragédie en rappelant, comme l'écrit notre consoeur Delia Ballan dans son très bel édito « Terre des hommes », que la cohabitation pacifique entre les ennemis d'hier se choisit chaque jour. En Iran, à Gaza, en Israël, en Ukraine, mais aussi dans toutes les régions ravagées par des conflits négligés, alors nous en parlons depuis plusieurs semaines ici dans cette revue de presse, les peuples paient le prix fort. Passer à l'attaque, écrit toujours Delia Ballan, peut être d'autant plus rapide que l'on fait fi du droit et de la diplomatie. Faire revivre la paix demande un autre courage durable. C'est ce qu'en filigrane, vous lirez à travers les témoignages des habitants de Bosnie-Herzégovine.
Sans transition, retour en France.
Et même en Bretagne, où j'apprends, alors c'est dans la Croix de ce mardi, qu'une ferme laboratoire secrète élève des cochons médicaments. Jonathan, je vois votre regard interrogateur. Ouais. Eh bien, dans ce lieu tenu secret, quelque part en Bretagne, la Croix a pu visiter un élevage de 500 porcs génétiquement modifiés. Objectif ? Les rendre compatibles avec l'homme pour tester et produire des traitements contre les maladies et pourquoi pas pour demain relever le défi de la xénogreffe. Entre espoirs médicaux et questionnements éthiques, un papier fort intéressant. Alors toujours dans la Croix, vous lirez comment et à quelle hauteur la finance solidaire a consolidé sa croissance en 2024 et comment elle contribue à faire tenir la société. Et dans le magazine La Vie, vous lirez comment Jésus fut un pionnier du modèle économique solidaire. Enfin, c'est la thèse de l'historien Jonathan Cornillon qui a trouvé dans les Écritures l'ébauche d'un véritable modèle économique et solidaire qui ensuite a inspiré les premiers chrétiens. Alors, vous serez d'accord avec moi, nous avons tous l'image d'un Jésus pauvre et itinérant vivant au jour le jour. Problème, l'image est probablement fausse, à en croire l'historien. En réalité, comme l'explique l'universitaire, Jésus disposait d'argent. Il a surtout mis en place avec les disciples une véritable organisation économique pour mener à bien son ministère avec une forte dimension caritative. Il s'agit d'un modèle fondé sur une collecte et une gestion communautaire des biens qui fut repris notamment par Paul et par les premiers chrétiens au moins jusqu'au milieu du IIIe siècle. Et la suite ? Eh bien la suite, allez vite la découvrir dans cet article absolument passionnant et dans le livre que l'historien vient de faire paraître aux éditions du Cerf, Le Partage, Jésus, les premiers chrétiens et l'argent.
Et puis enfin, cap sur l'été, l'évasion et surtout Marie-Pierre, les vacances.
Et oui Jonathan, mais avec un livre sous le bras, comme nous le conseille l'hebdomadaire La Vie, parce que pour échapper au stress ou à la routine de l'année, rien de mieux qu'un récit romanesque, un carnet de voyage, un thriller haletant. Ou bien en découvrant des trésors du patrimoine. Dans Le Pèlerin et dans La Croix de ce vendredi matin, j'apprends que les fresques de l'église Saint-Martin à Nohant-Vic, un trésor de l'art roman, sont enfin révélées au public et ce, depuis le printemps, grâce à un dispositif scénographique. J'apprends aussi que leur auteur reste inconnu et qu'on le surnomme le maître de Vic. Le curé Vincent Béguin revient sur la découverte de ce décor qui nourrit l'âme. Écoutez bien. Le 6 décembre 1849, en tentant de retirer un clou, l'abbé d'alors tombe sur des peintures murales cachées sous une couche de badigeon de chaux. Avec l'aide de son sacristain, il retire l'enduit et découvre dans leur splendeur d'origine des fresques déclinées dans des tons ocre, rouges et jaunes. Il en informe sa voisine, la châtelaine de Nohant, Georges Sand, qui prêtera main forte au sens propre comme figuré pour sortir ses fresques de l'ombre. Aujourd'hui, l'église est ouverte toute la journée, tant aux fidèles qu'aux touristes ou aux amateurs d'art. Parce que, comme le souligne toujours le père Vincent, ouvrir nos églises à tous est fondamental, non seulement pour l'attractivité d'un territoire rural comme le nôtre, mais aussi parce que l'on ne sait jamais ce qui peut naître d'une simple visite. Alors cet été, où que vous soyez, restez attentifs à l'inattendu. C'est tout ce que je vous souhaite avant de vous retrouver avec joie dès le mois de septembre.
Eh bien, merci beaucoup Marie-Pierre. Le rendez-vous est pris dans quelques mois maintenant, quelques semaines.
Bel été à tous.
Bel été Marie-Pierre, à bientôt.